là.
De secours, plus de 500 000 hommes ont travaillé pour éliminer ces séquelles. Immédiatement après l'accident, quelques 500 000 personnes, ce qui est énorme. Et de tels chiffres ne doivent laisser personne indifférent. En ma qualité de ministre de la Santé, je suis en devoir d'informer mes collègues des problèmes sanitaires que connaissent les populations des régions contaminées. Et ces problèmes ont plusieurs aspects, non seulement médicaux, mais il y a aussi des problèmes sociaux et encore d'autres difficultés qui surgissent et qui ont une portée politique, elles. Le gouvernement de mon pays, conjointement avec le gouvernement des républiques concernées, prend les mesures les plus actives pour réduire les effets de cet accident sur l'organisme de l'homme. Il suffit de mentionner le fait que l'organe suprême de notre pays, le Soviet suprême, a adopté un programme de mesures urgentes, un programme de 2 ans. Atteindre 400 millions de roubles. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en œuvre ce programme, il s'agit de voir quelle stratégie l'on va engager pour améliorer si possible la santé des populations touchées. Et je suis heureux de vous dire que dans ce domaine, au cours des dernières années, nous avons enregistré des modifications importantes. À l'heure actuelle, notre gouvernement adopte de nouvelles notions, de nouveaux concepts médicaux qui, de notre point de vue, garantiraient la sécurité de la population qui vit sur ce territoire. Voilà qui diffère grandement des concepts qui prévalaient antérieurement. Nous devons fonder une démarche nouvelle sur la base des observations faites, concentration de la radiation sur ces territoires au kilomètre carré. C'est ce que nous faisions dans le passé. Et aujourd'hui, nous avons adopté des normes établies au niveau mondial. Et la sécurité de l'homme est garantie par rapport à la quantité de doses de radiation qu'il reçoit annuellement. Ce qui, à titre obligatoire, doit faire l'objet d'un contrôle. À cette fin, au cours des dernières années, nous avons créé un registre unifié des personnes qui vivent dans les territoires contaminés et qui ont participé aux opérations de secours. Ces personnes sont inscrites sur le fichier officiel et l'on en compte aujourd'hui plus de 507 000. 26 000 de ces personnes ont participé directement au secours d'urgence après l'accident. Pour ce qui est des aspects médicaux que nous prenons en compte et qui nous inquiètent et qui nous rendent soucieux, problèmes sur lesquels les experts internationaux fixent toute leur attention, nous en avons dégagé 3 principaux. Problèmes d'ordre épidémiologique. Pour toute la surface des zones contaminées, problèmes liés aux maladies et à la pathologie de la thyroïde, enfin maladies d'hématologie. Là, nous examinons comment les gens peuvent survivre dans les zones contaminées. Au cours des 2 dernières années, la situation a évolué comme suit. Eu égard au caractère universel des chiffres et des données que l'on a récoltées après l'accident, leur intérêt pour l'ensemble du monde, intérêt pour chaque pays du monde, qu'il soit doté ou non d'industrie nucléaire, mais où l'industrie, la technologie utilise des matériaux hautement spécialisés et dangereux, radioactifs. le gouvernement soviétique a décidé, eu égard à ce caractère universel de cette problématique, de lancer un appel à la communauté internationale, aux savants, pour que nous puissions disposer de données de plus en plus précises et que nous puissions les mettre à la disposition des pays du monde. Là, l'on prend en compte non seulement ce que nous avons pu faire depuis l'accident, depuis cette tragédie, mais l'on prend en compte aussi tous les problèmes, toutes les questions qui appellent une solution et une solution commune. C'est pourquoi il y a un an, en 1990, le ministère de la Santé s'est adressé à l'OMS en lui demandant de créer un programme international placé sous l'égide de l'OMS, programme qui définirait le caractère juste des mesures que nous prenons et qui vérifierait l'action que nous menons, qui la contrôlerait, cette action que nous menons pour protéger la santé des populations affectées. Nous avons reçu l'appui sur la base de la résolution 45-190 de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avons reçu un appui. Nous avons également un appui de l'ECOSOC. Pour ce qui est d'une coopération internationale en matière d'action à mener pour lutter contre les effets de l'accident de Tchernobyl, nous avons également un appui sous la forme d'un texte de la 41e session de l'Assemblée mondiale de la santé, puis enfin un appui plus récent remontant au mois de janvier et émanant de la réunion du Conseil exécutif. Et c'est pourquoi, lors de la présente Assemblée, vous sera présenté un projet de résolution sur la base du rapport du directeur général. Ce projet porte sur un programme international qui serait mis en œuvre afin de lutter contre les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé. Nous comprenons pleinement que l'organisation a déjà beaucoup de problèmes. Il y a toutes sortes de projets en cours, prévus, et en aucune façon, nous ne voudrions que le programme international dont nous parlons, en aucune façon, disais-je, nous ne voudrions que ce programme entrave la mise en œuvre d'autres actions décidées et en cours. C'est pourquoi dans ce projet de résolution, nous soulignons, et je voudrais attirer tout particulièrement votre attention sur ce point, nous soulignons le fait que ce programme international sera financé bénévolement. Il n'affectera aucunement les sources de financement budgétaire ou extra-budgétaire de l'organisation. Aujourd'hui, la situation est telle, cependant, que sans aide au niveau médical, au niveau des techniques de pointe, sans aide de la communauté internationale, des savants, des scientifiques, toute la problématique qui s'est créée après l'accident de Tchernobyl, pour importante qu'elle soit, devrait faire l'objet de recherches et devrait être exploité. Et d'autre part, nous ne sommes pas en mesure de réagir tout seul contre les effets de cet accident. Nous avons besoin de cette aide internationale que je viens de vous mentionner. C'est pourquoi notre président s'est adressé à la communauté mondiale en lui demandant d'apporter, dans la mesure du possible, une contribution volontaire pour nous aider à lutter contre les effets de cette tragédie. Je vous remercie de votre attention.
Thank you, Mr. Denisov.
Je vous remercie, Monsieur le ministre Denisov. Je pense que nous pouvons donner maintenant la parole.
Спасибо.
Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie de l'occasion qui m'est donnée d'intervenir. assistance, si compétente, mesdames et messieurs, collègues, l'accident de Tchernobyl est effectivement unique quant à sa dimension et quant à son degré de tragique. Notre République n'est pas grande, 10 millions d'habitants vivent sur le territoire de la République, mais la pollution, quant à son degré, eh bien, 5 des oblasts, c'est-à-dire des parties, sur les 6, ont été pollués dans notre dans le territoire de notre République. Vivent plus de 2,5 millions de personnes sur ce territoire-là. Vous comprendrez aisément que cet accident et le degré de cet accident sur le territoire de la République a apporté des difficultés considérables dans les activités des structures existantes, des organes de santé publique de notre République. De ce fait, c'est indispensable de surveiller la population de quelques 2,5 millions de personnes chaque année. En plus de cela, dans le fichier, l'on a enregistré 180 000 personnes, dont 11 000 sont des personnes qui ont été directement associées à supprimer les effets de l'accident de Tchernobyl lors de l'explosion qui avait eu lieu dans le réacteur. J'aimerais à cette occasion exprimer notre reconnaissance la plus sincère à tous les pays, organisations officielles et privées, et personnalités privées qui ont apporté leur concours, qui ont travaillé main dans la main avec nous sur le territoire de notre République à l'heure actuelle. Je n'aimerais pas énumérer à titre individuel tous les pays, mais leur nombre est vraiment très important. Je n'aimerais pas non plus citer toutes les organisations ou personnalités qui se sont portées volontaires, mais toutes ces personnes ont contribué. Mais tout cela est assez diffus et cela ne contribue pas au fait de permettre de rassembler. L'important serait de rassembler toutes les connaissances que l'on peut en acquérir pour les générations suivantes. Le gouvernement de notre République, avec le Soviet suprême de l'Union soviétique, a fait une proposition de programme sur les suppressions des effets de l'accident de Tchernobyl. Dans notre République, cette mesure, jusqu'en 1995, sont évaluées à 16 milliards de roubles. Pour notre République, ce sont des sommes considérables. Je vous citerai simplement un seul chiffre pour vous dire que l'ensemble du budget annuel de la République correspond également à environ 16 millions d'euros. Nous disposons d'un potentiel de recherche important. Nous avons 11 instituts de recherche scientifiques, je souligne. Ils collaborent tous à l'heure actuelle avec un grand nombre d'organisations internationales. Et j'aimerais exprimer aujourd'hui notre reconnaissance sincère à l'Organisation mondiale de la santé, personnellement au docteur Nakajima et à toutes les autres organisations du système des Nations Unies qui ont commencé leur collaboration avec nous. Cependant, il nous semble que l'adoption d'une résolution sur la catastrophe de Tchernobyl dans la variante dans laquelle elle est présentée et soumise à l'attention de l'Assemblée contribuerait à consolider toutes ces forces et permettrait également de mieux faire connaître et évaluer la situation pour la communauté scientifique, médicale en particulier. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Le ministre Denisov, je crois, voudrait revenir encore reprendre la parole.
Merci.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, participant à cette séance d'information, j'aimerais porter à votre connaissance qu'à l'heure actuelle, nous disposons de matériel, de programme qui a été approuvé par les experts de l'OMS de mai 1990 et d'octobre 1990 à Hiroshima. En plus, nous avons un communiqué de presse qui est donc un appel du président du pays et un projet de résolution de la 44e session de l'Assemblée mondiale de la santé sur le programme international pour atténuer les effets de l'accident de Tchernobyl sur la santé. À la suite de consultations qui ont eu lieu hier, cette résolution a été encore reformulée, vous l'avez sous cette forme-là. La Finlande, le Luxembourg, l'Égypte ont donné leur soutien à la suite de ces consultations. Nous aimerions demander aux participants à la suite de cet échange de vues qui aura lieu aujourd'hui d'également donner leur soutien à cette résolution et, si possible, d'en devenir co-auteur. Je vous remercie.
Thank you, Minister Denisov.
Ministre Denisov, je vous remercie. Afin de vous donner suffisamment de temps pour poser des questions, je m'imagine qu'il y a un certain nombre, j'aimerais, en ce qui me concerne, être très bref dans mon intervention. J'aimerais vous donner un aperçu historique bref sur la façon dont le programme international a été mis sur pied, après quoi nous pourrions brièvement discuter avec vous des parties du rapport du directeur général à l'Assemblée qui traite de l'aspect gestion, aspect structure et aspect financier, de même que de la coordination internationale pour ce qui est de ce travail sur les séquelles de l'accident de Tchernobyl. À la demande du directeur général du ministère de la Santé de l'Union soviétique, l'année dernière, le directeur général et le ministère de la Santé de l'Union soviétique ont signé un mémorandum d'accord, et ce mémorandum d'accord avait demander en principe la mise sur pied d'un programme international à long terme pour suivre et atténuer les effets pour la santé de l'accident de Tchernobyl. Également la création d'un centre international pour ce qui est des problèmes de rayonnement et de santé. Nous avons préparé un certain nombre de clichés qui résument certaines des informations dont nous disposons. Le programme international envisage une série d'activités pour s'occuper des soins de santé destinés à la population exposée et pour renforcer également les réactions en situation d'urgence. Là, vous avez des études épidémiologiques à long terme, évaluation et traitement, des effets possibles somatiques ou génétiques, diagnostic et traitement et prévention des maladies liées à la thyroïde, implications pour la santé, des effets psychosociaux de l'accident qui doivent être mentionnés avec une priorité assez importante, la création et le maintien d'une banque de données qui concerne le rayonnement et une analyse rétrospective des doses projetées et enfin une évaluation indépendante de niveau de contamination, de même que des mesures de contrôle pouvant être introduites. Bien entendu, il s'agit d'un programme extrêmement vaste dont la complexité nécessitera la mise sur pied de ce programme par étapes. Les autorités soviétiques prennent des dispositions à l'heure actuelle pour la mise sur pied de ce centre qui sera le noyau du programme international et qui se situera à Obninsk. Des centres régionaux affiliés ont été établis à Kiev, à Gomel et à Briansk. J'y viendrai un peu plus tard. Au titre d'un accord conclu entre le ministère de la Santé de l'Union soviétique avec ceux des RSC
d'URSS, de Biélorussie et d'Ukraine. Maintenant, je pourrais vous montrer deux clichés de la ville d'Obninsk, dans la région Kalouga, qui a également été touchée. Là, vous avez une salle de l'Institut des sciences de la ville d'Obninsk. La ville d'Obninsk est le siège d'un grand nombre d'instituts de recherche. Dans les 14 instituts de ce type, il y en a 14 et ils sont à l'heure actuelle situés à Obninsk. L'Institut de recherche de radiologie médicale de l'Académie des sciences de l'Union soviétique, qui comprend le fichier officier de plus de 500 000 personnes exposées à la suite de l'accident, est censé être le centre, donc au noyau de ces activités. Et il est composé à l'heure actuelle de deux branches, une branche clinique située dans la ville d'Obninsk et une branche recherche un peu à l'extérieur de la ville. J'ai déjà dit, une partie intégrante du travail épidémiologique du centre sera le fichier de toute l'Union soviétique inscrivant toutes les personnes qui ont été exposées à la suite de l'accident de Tchernobyl et des informations sur plus de 500 000 individus qui ont été exposés au rayonnement lors de l'accident, y compris les personnes qui ont été associées au travail de nettoyage, de décontamination, sont inscrites dans le fichier et sont à disposition. Et maintenant, de façon à vous donner l'étape suivante de ce qui s'est passé, nous avons invité un comité consultatif scientifique comprenant 9 scientifiques de renom d'un grand nombre de pays qui se sont réunis à Hiroshima du 23 au 26 octobre 1990 et qui devraient nous donner des conseils sur les priorités que le programme international devrait souligner. Ici, vous avez une liste de ces priorités que le comité consultatif scientifique avait recommandées. Je vous mentionne plus particulièrement les évaluations dosimétriques qui devraient se concentrer sur des groupes d'études. Et là, il s'agit des travailleurs qui ont travaillé pendant le moment d'urgence, les personnes qui vivaient là et ceux qui ont été immédiatement après l'accident évacués. En octobre-novembre de l'année dernière, le directeur général a lancé un appel aux États membres qui ont des missions permanentes à Genève, demandant que des fonds soient consacrés à l'appui de ce programme et du centre. Nous avons reçu une réaction positive de la part du gouvernement japonais qui a fait don de 20 millions de dollars américains destinés à ce programme international. Bien entendu, l'Union soviétique elle-même dépense déjà des milliards de roubles en fait pour le travail qui fait partie du programme international. De façon à déterminer comment ces fonds devraient être dépensés, c'est-à-dire les 20 millions initialement donnés par le gouvernement japonais, une réunion d'un groupe d'experts s'est réunie au mois de janvier. En Union soviétique, il a recommandé pour l'essentiel 3 projets pilotes. Le projet hématologie, visant à examiner l'incidence des maladies hématologiques chez les personnes qui vivent dans les zones du contrôle strict et d'établir également des possibilités de greffe de moelle épinière à Gomel. Le deuxième projet était d'évaluer d'évaluer les maladies de la thyroïde chez les enfants exposés. Et enfin, comme ça a déjà été mentionné par le ministre Denisov, un projet épidémiologique tendant à établir des protocoles uniformes pour concevoir le logiciel permettant de faciliter la manipulation, le traitement des données pour ce qui est des estimations futures en matière de risque. Au cours des trois dernières semaines, un quatrième projet pilote a été ajouté. C'est l'évaluation de l'exposition de l'enfant in utero. Exposition in utero, l'enfant qui n'est pas né. Et cela sera réalisé parallèlement aux trois autres projets pilotes que vous voyez mentionnés sur cette cliché. Bien entendu, au moment où les fonds sont mis à disposition, d'autres projets importants qui ont été identifiés par le comité consultatif scientifique, en accord complet, bien entendu, avec les autorités soviétiques, pourraient encore être mis sur pied. Je parle plus particulièrement des effets psychosociaux de l'accident. Maintenant, vous vous souviendrez de notre discussion au Conseil exécutif au mois de janvier de cette année, où le Conseil exécutif avait demandé au directeur général, après avoir approuvé le développement du programme, de soumettre un rapport qui exposerait l'aspect gestion, organisation, structure et finance de ce programme. Le rapport que vous avez reçu donne un aperçu de ces propositions. Quant à l'aspect organisation, nous croyons que la structure la plus appropriée du centre international réside quelque part entre une institution soviétique à désigner comme centre de collaboration de l'OMS et quelque chose d'un style CIRC, un centre. Bien entendu, les deux ne sont pas acceptables. En ce qui concerne un centre de collaboration OMS, ce style-là, à notre avis, cela limiterait les occasions pour une participation internationale complète et limiterait également la portée des projets. C'est-à-dire, à notre avis, ce serait des informations uniques qui être perdu de façon irrécurable. Quant au centre de style CIRC, eh bien, cela nécessiterait des contributions régulières venant des États membres et très clairement, nous avons déjà déclaré qu'il n'en était pas ainsi et qu'il faudrait faire appel à des contributions volontaires pour le programme international dont le centre fait partie. En conséquence de quoi, le programme tel que nous l'envisageons pourrait au mieux être mis sur pied par un centre international financé par des contributions volontaires et doté d'un personnel qui serait un petit nombre de professionnels recrutés sur le plan international et de personnel local, des services généraux. Et enfin, un certain nombre d'experts et qui viendraient de l'extérieur et qui seraient détachés par leurs propres instituts. Si le centre, comme j'ai déjà dit, doit être situé à Obdinsk, beaucoup de travail, cependant, doit être entrepris par les trois centres affiliés à Bryansk, Pomel et Kiev dans les républiques touchées et au paragraphe 9, ou plutôt 36, du rapport du directeur général. Bref, une mention de cela. Pourquoi Obninsk? Je puis vous donner quelques faits qui sont d'importance et qui rend les choses peut-être plus compréhensibles. Pourquoi cela devrait être le point central? Tout d'abord, la situation qui est tout à fait appropriée puisque c'est près de Moscou et pourrait faciliter les transports et les communications. D'autre part, l'expérience très longue que l'Institut de recherche de radiologie médicale a déjà eue en traitant de surexposition et en développant les départements appropriés, de même que les techniques. Troisièmement, la présence de ce fichier officiel qui a déjà plus de 500 000 rubriques. Les services de soutien autour, de même que les autorités municipales qui assisteront à tout égard, de même que l'accord entre l'Union soviétique et les ministères des républiques sur le fait que Minsk soit le centre de coordination. Enfin, les activités dans les centres affiliés ne sont pas identiques et sont réparties en fait entre différents instituts. Enfin, la coordination est tout à fait nécessaire de façon à éviter toute répétition. Brièvement, pour ce qui est de la gestion, le programme et sa gestion et la structure, et là je dois encore souligner cet aspect, devra être construit pendant une certaine période de temps par étapes. Bien entendu, son rythme de construction dépendra de la disponibilité des ressources et de la capacité de les utiliser. Ainsi donc, à moyen terme, nous prévoyons un programme largement autonome dont la gestion devrait être confiée à un conseil d'administration et dont le directeur qui est en position future. Et aussi, ces données pourraient être utilisées pour accentuer la prévention. Monsieur, cette question est tout à fait justifiée. Le problème de Tchernobyl ne consiste pas à réduire au minimum l'impact des radiations sur la vie.
Мы открываем двери не только наших лабораторий, но мы представляем людям, коллективам,
De commentaires. En effet, il a
Et là, je le prierai de bien vouloir m'excuser, mais il a tout simplement appelé les choses par leur nom. Et toute cette problématique ne touche pas uniquement les populations de notre pays, mais la communauté mondiale, son avenir. Et il faut que nous fassions preuve d'esprit de décision, indispensable quand la santé est en jeu. Nous serions inexcusables si nous n'agissions pas. Et c'est pourquoi je remercie le professeur Girard et son pays qui s'est associé au nombre des co-auteurs de ce projet de résolution. Merci, professeur. Le président, je vous remercie. Avez-vous d'autres commentaires, observations à formuler?
Well, that seems not to be the...
Il semble que personne ne veut intervenir. Je tiens à vous remercier d'être venu à cette réunion. Je remercie tout particulièrement M. le ministre Denisov, Kazakov et M. l'ambassadeur Makeyev d'être venus parmi nous ce matin.
Dr. Kreisel, you are director of the
Division
of Environmental Health of WHO, yes. And as such, you are in fact the organizer of this session concerning the special program for Chernobyl.
Yes, it is my responsibility, as environmental health in WHO covers also radiation protection.
And what is the essential question that is to be decided in this assembly? It seems as though this program is already more or less being put on foot. What is going to come out of this session, so as to say?
The major issue here is the resolution that the World Health Assembly has to adopt on the international program on the health effects of the Chernobyl accident, including the establishment of an international center as the focal point of the international program. And here, of course, it is the member states who are asked to contribute voluntarily to the financing of this international program and the international center. As it is now, there is no hope that there can be so-called assessed contributions which would finance the program. This would mean regular budget. This is refused by most of the member states. So we had to find a way out to support this program on a voluntary basis. And here, a major issue at stake is the establishment of this center at the city of Obninsk, as the focal point with the affiliated branches in the affected republics. And I would like to say that these centers are indeed those centers which will carry out the bulk of the work in the medical field.
It seems as rather surprising in a sense that there should be a reluctance to finance such a center. How can you explain the attitude of a certain number of countries, apparently a majority of the countries, with respect to this catastrophe, which seems all the same to have implications for everyone?
Yes, it is certainly a big question, but I suppose that one of the reasons lies that some of the countries would like to carry out work bilaterally with the Soviet Union rather than having it channeled through an international program. But clearly, if there would be 10 different governments dealing separately with the republics or the Soviet Union, it would be chaos. Nobody would really know what is going on. And it is absolutely essential that there is an international program which channels all this information and which coordinates this information, or better, orchestrates this work. And for this matter, we need actually this international program. The bilateral activities can well be channeled through the international program.
Why would some countries have preferred a bilateral program than an international program?
This question is, of course, a very important one. I can only guess that some countries may have some doubts as to whether an international organization can be an organizer of such an international program. This, of course, is up to the judgment of others. But clearly WHO in this field has the mandate as the leading authority in world health.
Do you think that the program that is being set up now in its scope, financing, etc., is going to be sufficient to carry out this role? You hope that there will be more, that it will develop with time?
The funds we have so far received from the government of Japan are $20 million, and the $20 million will be used to implement four priority projects, which we believe have to be given first priority. And these are the problems of hematological disorders, leukemia, etc. Secondly, thyroid disorders. Thirdly, epidemiological data banks have to be established. And fourthly, a new project, which also is a priority, that is the exposure of the unborn child to radiation and to see what the health effects are of this unborn child. And the funds will certainly be not sufficient to carry out these projects and to cover all exposed people. Indeed, we are expecting that after this World Health Assembly, governments will decide to contribute further to this program. And we, of course, are looking forward to expanding the program as money comes in.
One last question, which is slightly more technical. The ambassador of the USSR said that the international norms were now being used in the USSR as far as radiation protection is concerned. And there was a mission, from what I've read, it was a mission was in July of 1989 that was sent by the OMS to USSR with Professor Pellerin and Benenson, I think another expert. And these people were cited, at least in the West, as having said that the populations living in contaminated areas could continue to live in these areas, even though the contamination levels were 10 to 15 times those of the levels normally used by the OMS, and as they were very criticized in certain milieus. What can you say on that subject, and what does the ambassador mean now by saying that the international levels are respected?
If you allow me, I would like to give this question to my colleague, Dr. Ryabukin, who is from the Soviet Union, and he is an expert in this field.
Thank you.
First, there are no such things as international standards. There are only international guidance. It's just the question of translation and of different terminology. Mm-hmm. And the guidance which the WHO give is that at some level of contamination, no intervention measures are needed because the intervention measures themselves may produce more harm than good.
Can you explain it maybe?
Yes. Mm-hmm. For example, if you relocate people from one village with some level of contamination, it is associated with some risks because it is well known that emigrants usually contract many new illnesses, disorders. They should be socially integrated into the new community, etc., etc. And so their conditions of life usually are worse than on site, and this is associated with some risks, including also the health risks. On the other side, there is a hypothetical risk from low-level radiation, the risk materialization of which has nobody so far seen, but which was established on the basis of extrapolation from high-level doses to the region of low-level doses. And the question is how to balance between these two risks. And it seems that there is some level of radiation that even hypothetical risk is lower than possible risk from interventional measures, such as relocation, such as limitation of consumption of fresh vegetables and fruits, and etc., etc.
Yes, you may give the example that in some areas in the Soviet Union,
yes,
which have not so been exposed to high levels, people have not been eating vegetables, and the result was nutritional deficiencies, which had a stronger health impact than they would have had if they would have eaten the very, very lowly, contaminated food. I think that's a good example. Yes.
Well, I can quite understand such an example, but people really live? Do you think really that people can live in areas which are contaminated at levels 10 to 15 times the guidelines of the OMS, and that this is better for their health than moving somewhere else?
I don't say that they can live there for ages. We can say only that we should consider the pros and contras, whether we should establish much better conditions of life there, on those areas, rather than simply relocate them or not. It is the question of the maximum benefit risk ratio. Mm-hmm. We should make optimal decisions based on international principles. We don't have such a thing like safe levels, because nothing is safe in the world. Nothing at all. So we should make the minimal harm and the maximum benefit of any our action. And as to the concrete 10 times or 15 times, it depends on the conditions, because it depends also on the sum which any society can afford itself to avert some dose of radiation. That's why this sum is different for different countries. For example, in the United States, it's up to $40,000 per man zivert. In India, it's only $2,000 per man zivert.
That's a unit.
Yes,
which you may explain.
Yes, yes, it's yes, the unit of irradiation. It doesn't matter how it sounds.
But the relationship is how much it would cost to avoid a radiation of a sievert.
Simply, a poorer society cannot afford itself to spend too much money for aversion the hypothetical risk.
It's a rather terrible thing,
yes,
isn't it?
It is, absolutely.
Yes, but it's
this
the life.
This is exactly what we have to oppose.
Yes.
From a developed country point of view, this is unacceptable. From a developed country point of view, this is unacceptable. Therefore, we have to assist those countries, because the health is the same in India or in the United States or in the Soviet Union as a human right.
Yes.
So, we have to look at it from an international point of view, and have to look at the international obligations to assist those countries where the health is not given, cannot be given, the emphasis that we are giving it in the developed world.
Yes, but it's the fact of life.
Yes, obviously. One last thing. There was announced last year, I can't remember the exact figures, but the ambassador of Belarus announced that there were something like 120,000 people who should be relocated in the Gomel, Mogilev areas. Has this been done, or have you not...
Yes, it has been done in the first year after the accident. Now the rate of relocation is much slower, because many people do not want to move. And some of them who were moved, they are returning back. They have even special name. They don't, because they feel a not very friendly environment around them. For example, children
the parents.
Yes, the parents do not permit their children to play with those Chernobyl children, because they think they are contaminated and dangerous. Yes, it's the fact. Mm. And I was in those areas several times, and I saw that people who were evacuated feel themselves not happy at all.
Yes, obviously.
Because everything is different what they accustomed for. For example, they were fishing, and it was a very, how to say, an integral part of their life. Here there is no river to fish with, and so they are kicked out of their habitude. Mm. So there are many pros and contras.
Thank you very much, Dr. Ryabukhin. And your position is?
I'm a radiation scientist.
In the Division of Environmental
Yes.
Here at the OMS.
Yes, he's in my division.
It's my big boss.
Okay, thank you very much.
Okay. That was a unique opportunity.